symboliquement, le cœur correspond à un centre, c'est-à-dire un point de rencontre entre des réalités de différents ordres. Donc c'est un point de circulation. Un point de circulation. Mais essentiellement, alors, en lien avec ça, mais essentiellement, le symbolisme du cœur dans les traditions est lié à d'autres symbolismes qui vont lui donner quelque chose de très concret. Et les symboles qui sont associés à celui du cœur sont les symboles de la cavité. D'ailleurs, même en biologie, quand on commence à étudier la fonction du cœur, on commence par s'intéresser au fait, par noter le fait que le cœur est constitué d'un certain nombre de cavités. Et entre ces cavités, précisément, il est question d'une circulation, une circulation du sang. Donc, le cœur est lié à une cavité. On parle à cet égard symboliquement de la caverne du cœur, pour faire le lien avec ce dont on parlait hier. La caverne étant elle-même le symbole, l'expression même de la cavité. Le cœur est lié également au symbolisme de la coupe, ou du vase. À cet égard, par exemple, en Occident, on a souvent associé le symbolisme du cœur au symbolisme du Graal, c'est-à-dire de cette coupe ou du vase qui contenait le sang du Christ. Dernier élément symbolique, mais vous allez voir quel est le lien entre tous ces éléments symboliques. Le symbolisme du cœur est souvent associé au symbolisme du croissant de lune. Et effectivement, le croissant de lune lui-même dessine une cavité. C'est-à-dire qu'en réalité, le cœur, et en français, les deux mots sont quasiment l'anagramme l'un de l'autre, le cœur, c'est un creux. C'est un vide. Voilà la raison pour laquelle il est associé à la notion de cavité. Et à partir de là, toute la question est de savoir le sens et la valeur de ce vide. Souvent, on dit que la vie spirituelle, c'est un travail par lequel progressivement on vide son cœur. Et je voudrais explorer un peu cette direction-là. Qu'est-ce que ça veut dire que vider son cœur? C'est contre-intuitif, c'est-à-dire que spontanément, on préfère avoir un cœur plein qu'un cœur vide. Et on va se dire plutôt qu'il faut au contraire remplir son cœur. Mais peut-être que pour le remplir, il faut d'abord le vider. Et c'est ce que je voudrais expliquer. Alors d'abord, cette idée de vider son cœur est très présente dans beaucoup de traditions, dans la poésie mystique. La poésie mystique parle beaucoup de l'amour, parle beaucoup du cœur, etc. Et elle rend très concrète cette idée de vider son cœur. Parce que vider son cœur pour les poètes mystiques et pour les mystiques, c'est vider son cœur de tout autre attachement que l'attachement au divin, que l'attachement au mystère, que l'attachement à l'essentiel. Donc en réalité, vider son cœur, ça veut dire se consacrer pleinement, exclusivement à l'essentiel. C'est pour ça que vider son cœur est une expression qui est devenue symbolique de la vie spirituelle elle-même, la vie spirituelle étant là entendue comme l'exercice quotidien tout au long d'une vie par lequel on vide son cœur, c'est-à-dire par lequel on dépouille son cœur, on enlève de son cœur toute autre préoccupation que la préoccupation de la quête. Ce qui situe aussi l'exigence de la quête. Alors par exemple, vous avez un poète soufi, ça c'est un recueil de traductions de poèmes soufis, il est dans la bibliothèque. Un poète soufi des premiers siècles qui chante les vers suivants, et donc qui illustrent ce que je viens de dire. Le poète dit « J'avais autrefois un cœur léger. » Léger ici c'est frivole. J'avais autrefois un cœur léger, qui était fort de ne point aimer. Il était à s'ébattre et à rire et à se divertir, accoutumé. Mais il fut par l'amour de toi interpellé. ton seuil depuis ce jour il ne veut plus quitter. Puissais-je être voué, si je mens, à l'exil, si mon cœur noue encore une rivale idylle? Et s'il est encore, ou que ce soit sur terre, quand tu ne mets présent chose qui me soit chère? Si tu le veux, me fuis. Si tu le veux, me viens. À un autre que toi, mon cœur point ne convient. Donc là, on a cette illustration, justement, de la poésie mystique qui exprime l'ardeur de la quête spirituelle, l'exclusivité de la quête spirituelle, c'est-à-dire donc l'exclusivité de cet effort visant à vider son cœur de tout autre attachement qu'à l'essentiel, qu'à la visée de la quête, quel que soit le nom que l'on donne à la visée de cette quête, au but de cette quête. Alors, je disais, il y a une exigence qui est très forte. Je dis ça en pensant à ce dont nous parlions hier, par rapport à l'idée ou à l'idéal de se consacrer. Moi, je suis un petit peu plus âgé que vous, et quand je vois que pour la plupart vous avez une trentaine d'années, et que vous accordez déjà le temps que vous accordez à la quête spirituelle, il me semble qu'il y a là quelque chose qui est remarquable. Pourquoi ? Parce que le moment de vie dans lequel vous êtes, qui est le moment de la construction de l'existence, vous avez plein de choses à faire. C'est vraiment un moment dans lequel il n'est pas du tout facile de se consacrer, si ce n'est exclusivement, tout au moins principalement, à la quête spirituelle, et dans lequel, un moment de vie dans lequel il est aussi très difficile d'accorder toutes les autres recherches que l'on peut avoir légitimement, recherches sur le plan professionnel, des recherches sur le plan amoureux, etc., avec l'essentiel de la quête. Et c'est la raison pour laquelle, en lien direct avec ce qu'on disait hier, c'est la raison pour laquelle il y avait cette sagesse chez les hindous, si vous voulez, de dire que, d'une certaine façon, il y a peut-être des âges dans lesquels il est plus facile d'abandonner tous les autres buts pour pouvoir se consacrer exclusivement, et que c'est peut-être, d'une certaine façon, une des formes de ce qu'on appelle le privilège de l'âge. J'y suis pas encore, mais ce privilège de l'âge, du grand âge, de l'âge qui commence vraiment à arriver, où là, on peut peut-être plus facilement, sur un certain nombre de plans extérieurs, se consacrer exclusivement à la quête. Alors, ce que dit le poète, lie le thème du cœur au thème de l'amour. C'est-à-dire que ce qu'il dit dans son poème, c'est que vider son cœur, c'est brûler toujours plus intensément d'un amour qui consume intérieurement tout l'être et dans lequel se consument tous les autres attachements que l'attachement à l'essentiel. Et ici, le thème du cœur que l'on vide est lié au thème de l'amour qui consume, de l'amour qui brûle tout. Parce que la meilleure manière de vider, c'est de brûler. C'est pour ça que quand vous faites craquer une allumette, vous pouvez en faire un objet de méditation spirituelle. Vous pouvez visualiser ça, regardez. Moi, quand je fais cramer une allumette, j'essaie de la faire cramer le plus longtemps possible. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, en faisant ça, je lui donne l'opportunité de se consumer tout entière. Et donc, je pense à mon âme. Et j'attends le dernier moment, j'attends qu'elle me brûle le doigt pour l'éteindre. C'est aussi simple que ça. Elle s'est vraiment consumée. Elle s'est vraiment consacrée. Elle s'est vraiment dépouillée au maximum. C'est simple. Vous voyez, mais quand vous allumez une bougie, pensez à l'allumette. Pensez pas seulement à la bougie. Des petites choses. Alors, c'est, si vous voulez, ce mouvement par lequel on vide son cœur est en assonance, et c'est pour ça qu'on a choisi ce symbolisme avec Inès dans la continuité de la semaine, il est en assonance avec le thème de la caverne qu'on a choisi, vous voyez, la cavité, et il est en assonance aussi, ou en résonance, avec le thème de la retraite. C'est-à-dire que dans le retraite, il y a ce mouvement essentiel qui est exprimé par lequel on va se vider, parce que le mouvement de retraite est un mouvement de détachement, c'est un mouvement d'arrachement, c'est un mouvement de dépouillement, c'est un moment de renoncement, c'est un moment d'éloignement. Vous voyez, tous ces mots-là expriment le fait de laisser un certain nombre de choses derrière soi, un certain nombre de préoccupations, un certain nombre d'occupations et de préoccupations. Vous voyez, donc c'est vraiment un mouvement par lequel on réalise ce vide. Et alors, réaliser ce vide dans la vie spirituelle, réaliser ce vide du cœur, vider son cœur, c'est une thématique qui est particulièrement présente dans les mystiques du monde, mais je vais vous en donner des exemples dans une mystique en particulier, qui est la mystique chrétienne. Parce que la mystique chrétienne, sur ce plan-là, elle est d'une richesse, d'une force qui a une singularité particulière. Bon. Alors, je vais vous en donner plusieurs exemples. C'est-à-dire plusieurs exemples de la façon dont le mystique chrétien vide son cœur. Alors par exemple, il va vider son cœur par l'humilité. La dévotion de sa vie spirituelle à l'humilité. L'humilité, c'est pas juste quelque chose de sentimental, dire « je suis rien, je suis rien, je suis rien ». C'est vider son cœur de tout orgueil, de toute vanité, de toute préoccupation de son intérêt particulier. Et donc, c'est une ascèse spirituelle, c'est-à-dire une discipline spirituelle qui est extrêmement exigeante, l'humilité, et dont le sens fondamental est celui-là, c'est-à-dire vider le cœur de tout ce qui l'encombre, à commencer par ce qu'on appelle souvent dans la vie spirituelle l'ego, et tous les attachements et toutes les vanités qui sont d'un ordre égotique, narcissique, etc. Donc c'est pas l'humilité pour l'humilité, si vous voulez, mais c'est parce que l'humilité est un des moyens par lesquels on peut vider le cœur. Vous voyez, regardez, simplement par exemple l'humilité dans une conversation. C'est très simple, mais ça peut devenir une discipline au jour le jour. Plutôt que de dire, j'écoute ce que dit tout le monde, mais j'attends que le moment où je vais pouvoir prendre la parole, c'est-à-dire remplir l'espace. Bon, ben, l'humilité, c'est je me tais. Je suis peut-être pas d'accord, peut-être que je pense que ce que je peux dire est plus intéressant, mais je me tais. À ce moment-là, je me tais. Oui. Alors, l'humilité peut passer par tout un ensemble de petits exercices comme ça, par lesquels, là, j'ai simplement, c'est une petite chose, rien du tout, mais j'ai l'occasion peut-être de commencer à enlever de mon cœur un petit bout de vanité, si vous voulez. Et petit bout par petit bout par petit bout, petit bout par petit bout. Ensuite, dans la mystique chrétienne, vous avez un autre grand thème qui est, par exemple, dans un certain nombre d'ordres chrétiens, c'est la pauvreté, le vœu de pauvreté. Il n'y avait pas seulement le vœu de silence, et puis parmi les grands vœux, le vœu de chasteté ou d'abstinence, etc. Le vœu de pauvreté. C'est-à-dire que là encore, c'est vraiment le moment par lequel on se vide, on se dépouille. Je n'ai aucune possession matérielle. Rien ne m'appartient en propre. Et donc, pourquoi la pauvreté? Si ce n'est justement pour travailler sur le cœur, en fait. C'est, en ce sens-là, il y a pauvreté extérieure et pauvreté intérieure. C'est-à-dire la pauvreté extérieure n'est pas un but en soi. Elle est simplement le moyen de réaliser quelque chose à l'extérieur. Le support par lequel on réalise quelque chose à l'extérieur. C'est-à-dire que, petit à petit, on rompt, on fait rupture avec un certain nombre d'attachements. Troisième élément dans la mystique chrétienne, mais bon, là... Alors, attention, je ne dis pas que tout ça, le christianisme en a, ou la mystique chrétienne en a la... ou la vie chrétienne en a l'exclusivité ou le monopole, mais ce sont des thèmes qui sont particulièrement développés. Troisième élément que vous trouvez dans le christianisme, certains lisaient le livre ces derniers jours, la prière. Et en particulier, ce qu'on appelle, dans le christianisme oriental, la prière du cœur. Parce que ce qui est appelé la prière du cœur, en réalité, c'est une prière continuelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire, une prière continuelle? Ça veut dire une prière qui peut être continuelle parce que l'individu s'est vidé de toute autre préoccupation que sa prière. Donc, d'une certaine façon, la prière continuelle, c'est un charisme, c'est une grâce. Les soufis musulmans diraient c'est un maqam, c'est-à-dire c'est une station spirituelle très élevée, qui est le bénéfice de ce travail par lequel l'individu, à force d'années de concentration, de consécration, d'orientation, a réussi à installer la prière dans son cœur. C'est-à-dire, comme on le dit aussi, les soufis disent la même chose, ils prient plus par la langue, ils prient par le cœur. Parce que, justement, le cœur s'étant vidé s'est rendu du même coup vacant. Vous voyez l'idée de cavité, de vacance. Il s'est ouvert, il s'est vidé, il s'est ouvert. Il s'est rendu vacant, c'est-à-dire disponible entièrement pour la prière, pour l'oraison, pour etc. Et donc la prière lui vient spontanément. C'est-à-dire qu'il y a ce passage aussi, ça c'est une grande étape de la vie spirituelle, dans lequel pendant longtemps dans la vie spirituelle, vous avez l'impression de tirer quelque chose, et à un moment donné, hop, vous êtes tiré. Bon, bref. Et le quatrième élément qui est très fort dans la mystique chrétienne, c'est l'amour. Je vous donner un exemple dans la mystique musulmane là, mais c'est l'amour. C'est-à-dire que pourquoi l'amour est lié au vide? Parce que, comme on l'a vu exprimé au départ par le poète, l'amoureux, souvent les poètes parlent de l'amant, de l'aimé, du bien-aimé, l'amante ou l'amant, l'âme est une amante, et une amante qui ne désire que la présence du bien-aimé, que la rencontre du bien-aimé. Donc en fait, le thème de l'amour est lié au fait de se vider intérieurement de tout autre désir, de toute autre aspiration que la rencontre du bien-aimé, divin, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est très présent. Alors je vais vous donner un autre exemple, justement dans la mystique chrétienne. Alors là, on est dans un des sommets de la mystique chrétienne médiévale. Donc c'est Maître Eckhart, qui était un mystique de la région du Rhin. On parle d'ailleurs du mystique rhénan à propos de Maître Eckhart et d'autres. On est au début, Maître Eckhart est mort au début du XIVe siècle. Alors je vais lire juste deux petits passages. Alors d'abord, il commence par citer Saint Paul. Saint Paul dit « C'est le bien le plus élevé que l'homme affermisse son cœur par la grâce. » À propos de ces paroles, on doit noter trois choses. L'une, où cela doit-il commencer? Quel est le commencement de la vie spirituelle? Où cela doit-il commencer? Réponse de Maître Eckhart, c'est dans le cœur. Dans le cœur. Et deuxième question, par quoi cela doit-il commencer? Par la grâce. Et en vue de quoi? Que l'on demeure bon. On doit donc commencer dans le cœur, dit Maître Eckhart. C'est le membre le plus noble dans le corps, et il se trouve au centre pour donner la vie à tout le corps. Deux points, car la source de la vie jaillit dans le cœur et opère à l'égal du ciel, car le ciel accomplit son cours sans relâche. Je m'arrête là. Pourquoi vider son corps, son cœur ? Pour accueillir la grâce. Qu'est-ce que la grâce? C'est la source de vie qui jaillit. C'est-à-dire que vider le cœur, c'est le rendre disponible pour accueillir une énergie qui vient d'ailleurs, et que le christianisme, que la pensée religieuse appelle la source de vie. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est vider le cœur pour qu'il soit rempli d'autres choses que des choses du monde. Il s'agit de le vider des choses du monde pour qu'il puisse accueillir quelque chose qui vient d'ailleurs, et que cette chose qui vient d'ailleurs ensuite, à partir du cœur, c'est-à-dire à partir du centre de l'être, se diffuse dans le corps, se diffuse dans le mental, et se diffuse dans la vie, et se diffuse dans le monde. Et c'est ce que symbolise dans les différentes traditions spirituelles le battement du cœur. Le battement du cœur, c'est à partir du centre de l'être, la diffusion de la source de vie permanente, la création permanente, constante du monde par la source de vie. C'est-à-dire les mystiques ne considèrent pas que Dieu, qui peut être un nom de cette source de vie, a créé le monde une fois à l'origine, mais qu'il est continuellement en train de le créer à partir du cœur humain. Et c'est ce qu'exprime symboliquement le battement du cœur. Vous voyez ce mouvement comme ça, là, qu'on exprime comme ça. Ta, 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 ta. Je vide, je vais prendre, je donne. Je vide, je vais prendre, je donne. Vous voyez? Et je donne pas de ce que j'ai moi, je donne de ce que j'ai pu recevoir en vie dans mon cœur. Voilà. Donc ça, c'est Maître Eckhart. Alors, je vais pas faire trop long. Il y avait un autre passage. Je sais pas si c'est Il y avait un, alors, je vous le laisserai lire si vous voulez, parce que sinon ça va faire trop long. Mais c'est un passage dans lequel il dit, il lit ce thème du vide que l'on fait dans son cœur au thème de la seconde naissance. Il dit, il y a deux sortes de naissances pour les hommes. Il y a une naissance dans le monde et une naissance hors du monde. Et par cette naissance hors du monde, je veux dire une naissance spirituelle en Dieu. Et après, il interroge son lecteur. Il lui dit, est-ce que tu t'es fait fils de Dieu? Fils de Dieu comme le Christ, Jésus, en est l'archétype, si vous voulez. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, fils de Dieu? Enfin, fils de Dieu, ça veut dire, en réalité, est-ce que tu as vidé ton cœur pour accueillir en toi Dieu, c'est-à-dire pour que ton cœur devienne le lieu où va surgir la source de vie? C'est-à-dire, est-ce que tu es né à la source de vie en toi? Est-ce que tu as libéré la source de vie en toi? Voilà. Et après, il va développer ça. Et c'est ça, pour lui, un cœur vidé, en réalité. Voilà. Alors, c'est quelque chose que vous trouvez, cette idée de vider le cœur, c'est quelque chose que vous trouvez en réalité dans un certain nombre de traditions spirituelles exprimées de manière parfois très très différente. Je vais vous prendre un autre exemple, qui est un exemple cette fois-ci plutôt extrême-oriental, qui est un exemple du côté du zen. C'est pour ça que j'ai pris ça. Vous pouvez avoir un maître zen qui met ça devant vous, comme ça, et qui vous dit, ben voilà, tu vas méditer là-dessus. Et voilà. Bon. Ou alors un maître zen qui vous dit, est-ce que ton bol est vide? Est-ce que ton bol est vide? Et en réalité, là on ne parle plus de Dieu, et on ne parle plus de nanana. Le zen, dans la méditation, vise explicitement le vide. Fait de se vider, d'aller vers le rien. L'absence de pensée, l'absence d'émotion, l'absence de représentation, etc., etc. L'absence de, c'est un travail sur le vide. Et donc, en fait, ici, c'est pareil, dans la méditation, vous pouvez avoir ça, c'est-à-dire, au début, mon cœur, il est comme ça. C'est-à-dire que, bien sûr, j'ai une vie spirituelle, bien sûr, j'ai une quête spirituelle, bien sûr, mais j'ai en moi tout un ensemble d'attachements, etc., qui font que mon cœur n'est pas vide, mon intériorité ne s'est pas rendue totalement disponible. Donc j'ai du sable, plein de sable, comme ça. Et vous pouvez tout à fait imaginer que au fur et à mesure de la vie spirituelle, vous faites comme ça, tout simplement. Hop. Bon, on va aller un peu plus vite. Hein? Hop, tout d'un coup, voilà.
C'est ça.
Voilà. Non, mais... C'est-à-dire, voilà, c'est des choses très, très, très simples. Voilà.
Et ça va où?
Faut le voir. Mais, voilà, vous voyez, c'est des symboles très simples, le vide, le bol, etc. Et l'idée qu'il y a quelque chose à vider. Voilà. Et ça va où? Ça, c'est le grand mystère du vide. Tu vois, pourquoi? Quel est l'intérêt du vide? Quel est l'intérêt du vide? Dernière chose, ça, ce que j'ai fait là avec le bol et le sable, c'est comme avec l'allumette. C'est-à-dire que quand on est face à ce genre de choses qui sont très 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 simples, elles ont une puissante résonance en nous en fait, parce qu'on sent intuitivement qu'il y a quelque chose de très profond qui est exprimé là-dedans. Dans ce genre de choses très simples, on se dit voilà, on a cette intuition, et c'est pour ça que les hommes ont choisi ce genre de choses comme support de méditation. Vous voyez, vous regardez lentement, regardez la bougie, vous la laissez allumer, lentement mais sûrement, elle ira au bout de sa consommation, etc. Elle va aller au bout. C'est-à-dire que la bougie a toujours symbolisé la perfection de la vie spirituelle. C'est-à-dire que continuellement, sans arrêt, tranquillement, elle va continuer à brûler. Jusqu'à ce qu'il reste rien. Voilà. Bon. Donc c'est un symbole de l'orientation parfaite. En fait. Et en conclusion, alors, le Sacré-Cœur. C'est-à-dire, on va méditer un peu là-dessus, si vous voulez, ou sur autre chose. En réalité, qu'est-ce que ça veut dire qu'un sacré cœur ? L'expression sacré cœur, pourquoi est-ce qu'on dit sacré cœur ? C'est pas simplement un cœur qui est sacré. En réalité, un sacré cœur, c'est un cœur qui est consacré. C'est-à-dire que ça exprime justement aussi la perfection de l'orientation. Un cœur qui est consacré, c'est un cœur qui s'est complètement dédié, qui s'est complètement voué à la quête, qui s'est complètement replié dans l'orientation exclusive, et à partir de là, qui s'est vidé de tout autre attachement. Et c'est la condition pour que ce cœur devienne, ça aussi c'est une grande expression du symbolisme du cœur, un cœur rayonnant. Un cœur rayonnant, c'est-à-dire que, comme vous voyez là, le Christ a un cœur rayonnant. Pourquoi est-ce qu'il a un cœur rayonnant ? Parce qu'il a un cœur qui n'est plus encombré de toute l'obscurité, de toute la brume des attachements sensibles, des attachements de ce monde. Et donc c'est un cœur qui laisse passer la lumière. C'est un cœur qui laisse passer la lumière, simplement. Vous voyez, c'est comme là, il y a beaucoup de traditions spirituelles aussi qui disent qu'il faut polir son cœur. Ouais. Si le cœur était un diamant qui aurait été recouvert par des couches de poussière, et donc il s'agit simplement de le polir pour qu'à nouveau la lumière puisse se diffuser à partir de lui. Et donc ce symbolisme du cœur rayonnant, en réalité, correspond justement à, c'est l'expression symbolique d'un degré spirituel, d'une station spirituelle, qui est élevée, c'est-à-dire celle du cœur, celle du sacré cœur, c'est-à-dire du cœur pleinement consacré.